Voilà, je vais commencer le cours d'anthropologie, l'insoutenable légèreté de l'être, ce lundi 19 octobre à 18h30. Je prends donc le chapitre 2 et c'est la deuxième leçon sur la liberté. Chapitre 2, la liberté, deuxième partie. Alors vous voyez que dans la première partie, j'avais pris les points A et B. Après une introduction historique, où j'avais évoqué la Russie, le Brésil. J'avais signalé dans le point A que la liberté était partout proclamée, mais partout, et pourtant assez souvent méconnue, proclamée bien sûr, surtout disons dans les partis politiques, etc., mais finalement, aussi bien philosophiquement que dans la pratique de chaque jour, de chacun d'entre nous, nous consentons à ne pas vivre tellement libre, et on s'en accommode. Point B, la genèse de l'acte libre. Alors là, c'est un point très important, donc qui se calque un peu sur une réflexion de Thomas d'Aquin, mais qui est remise dans un autre ordre par le père Albert Chapelle, qui s'inspire lui-même de Saint Ignace de Loyola, des 4 semaines des exercices de Saint Ignace de Loyola. Alors c'est pourquoi je prends maintenant le point C, l'inspiration ignatienne de cette conception, et je vais vous présenter des schémas. Ensuite, il y aura une relecture. Et puis, le point E, la liberté au principe au terme de soi. Ça, c'est une grande formule chapellienne qui me semble intéressante. Hein. La liberté au principe et au terme de soi, reprise par la mémoire. Donc, c'est une deuxième reprise après la relecture. C'est une deuxième reprise des 4 points. Et enfin, la conclusion, il y a 2 définitions de la liberté qui s'opposent. Celle par l'esprit, c'est celle que nous prenons évidemment, et celle par le désir, qui nous semble être en deçà, manquer vraiment son but, parce que c'est un petit peu tourner en rond entre le premier et le deuxième point, et ne pas consentir au troisième pour atteindre le quatrième. Voilà l'inspiration ignatienne de cette conception. Donc je vais reprendre plusieurs fois ces 4 temps. Vous vous souvenez, il y a l'intention. Donc, pas d'acte libre sans avoir d'abord l'intention. L'intention, d'ailleurs, est sollicitée de l'extérieur par le monde qui vous est appétible, je ne sais pas comment on dit. Hein. Il y a des choses... Prenez une feuille de route, madame. Oui. Le monde vous fait envie, vous avez envie de manger la pomme du jardin d'Éden, donc votre liberté est sollicitée. L'intention, est-ce que vous allez entrer... Est-ce que la sollicitation extérieure va rejoindre votre intention intérieure et puis vous allez faire quelque chose? L'intention, le libre arbitre, dans toutes ces sollicitations de l'extérieur, dans toute cette spontanéité que vous avez en vous de faire quelque chose, c'est formidable, tout être humain a envie de faire quelque chose. Petit enfant, il a envie de faire quelque chose. Rester sans bouger, non, il veut courir 4 pattes partout, mettre ses doigts dans les prises, il veut faire quelque chose. La spontanéité, il choisit, c'est le libre arbitre. Il choisit. Alors quand on fait un choix, disons assez important, il faut prendre les moyens pour atteindre le but qu'on s'est proposé. Et là, c'est un effort, c'est le point 3, la maîtrise. On vous demande un long exercice pour maîtriser les moyens qui vous feront atteindre le but. Et enfin, vous avez obtenu le but et vous en jouissez. Ou bien, au contraire, il y a l'échec, il y a toujours cette possibilité de l'échec qui fait partie de l'enjeu de l'acte libre. Personne ne sait à l'avance s'il va réussir ou rater. Tout le monde espère réussir. Il y a quelques paradoxes psychologiques, bien sûr, des gens qui ne choisissent que des choses qu'ils vont rater, ou bien la veille de l'examen, ils ont juste ce qu'il faut pour ne pas réussir, etc. Il y a quelques paradoxes, mais fondamentalement, on n'a pas envie d'échouer, mais tout le monde fait l'expérience de l'échec quelque part. Et d'ailleurs, ça fait peut-être partie de l'exercice de la liberté, ça nous apprend quelque chose. Donc ces 4 temps, en fait... C'est une systématisation qui vient de Gaston Fessard. Fessard qui a écrit La dialectique des exercices spirituels de Saint Ignace. Ce sont les deux premiers tomes surtout. Il fait beaucoup de schémas lui aussi. Alors, il y a 4 semaines dans les exercices qui durent 30 jours. Mais 30 jours, ce n'est pas 4 semaines du lundi au dimanche avec 30 jours, 30 pas plus, pas moins. Non, c'est 4 unités. Hein. Une première semaine, une deuxième semaine, une troisième semaine, une quatrième semaine. Souvent, la première dure 4, 5, 6 jours. La deuxième peut durer 10 jours. La troisième est un peu difficile aussi, elle dure 4, 5, 6 jours, puis celle-là 4, 5, 6 jours. Souvent la deuxième semaine est la plus longue. Pas toujours, hein, mais enfin voilà. La première semaine, eh bien, Saint Ignace dit, c'est la méditation de son péché. Alors ça c'est très engageant évidemment, hein, il n'y a personne qui a envie de se lancer là-dedans. Eh bien voilà, c'est quand même par là qu'il faut commencer. D'habitude, ben on ne voit pas ce qu'il y a à voir. Hein. On ne voit pas ce qu'il y a à voir. Il y a un péché, où ça, comment, bref. Alors Saint Ignace vous dit, non, mais on ne va pas regarder votre péché, on va d'abord regarder le péché des anges. Ben, le péché des anges. Et puis le péché de nos premiers parents. Il ne dit pas Adam et Ève, donc il distribue bien les responsabilités, hein, nos premiers parents. Et puis le péché de tout homme. Ça, tout le monde le connaît, hein, le péché de tout homme. Pas besoin d'être très modeste, hein, au contraire, hein, pour voir le péché de tout homme. Et puis, quatrième point, regarder son propre péché. Ah. Si on a bien fait les 3 points précédents, eh bien, on finit par entrer un peu dans la logique d'Ignace, qui nous a montré que, ben voilà, voilà notre liberté, elle est partie un peu dans tous les sens, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas... Il vaut mieux finalement le regarder en face, hein, le reconnaître et savoir que c'est ça le point de départ. Hein, le Christ nous sauve, mais nous sauve de quoi? Ben, s'il n'y a pas de péché, il nous sauve de rien, donc on n'a pas besoin de lui. Mais si de manière assez objective on a essayé de reconnaître son péché, ben on se dit peut-être, tiens, ce serait quand même bien que quelqu'un m'en tire, quoi. Surtout que je ne m'en tire pas moi-même, puisque la preuve, ben, c'est que ça recommence tout le temps et je ne sais pas par où aller et où trouver du secours. Et c'est pour ça qu'on commence, dans la deuxième semaine, à méditer la vie du Christ. La vie du Christ. La vie du Christ, ça veut dire ben, sa naissance, son enseignement, ses miracles, enfin, je dirais, pas la passion. La passion, c'est l'objet de la troisième semaine. Donc on voit très bien qu'Ignace fait là un choix. La vie du Christ, c'est ce qu'il propose. Ah, il propose quelque chose de formidable. Hein. Donc, si vous avez bon sens, selon lui, ben vous trouvez que ce que le Christ propose, ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc on aurait envie, pour s'en tirer de ce péché, hein, ben de suivre ce Christ qui a un si bel enseignement et une si belle action. Mais malheureusement, cette action, elle se termine sur la croix. Aïe. Ça, c'est un peu plus embêtant. Donc, tant qu'on est là, on est prêt à le suivre. Est-ce qu'on va continuer à le suivre ici, dans la troisième semaine? Et donc, ici, il y a quelque chose d'un peu décisif. Alors, ça se fait dans la prière, bien sûr, avec beaucoup de temps, hein, beaucoup de discussions avec l'accompagnateur et tout ça. Bon, la passion. Et là, on prend 3, 4, 5, 6 jours pour méditer la passion. Heure par heure. Lieu par lieu, ben, il faut vraiment que ça entre, quoi. Et je dois dire que, bon, évidemment, c'est pas nécessairement amusant, mais quand on prend les récits de la passion au sérieux, ben, il y a de quoi passer un certain temps dessus. Hein. Non pas pour se lamenter, mais pour voir ben, l'engagement du Christ, hein, jusqu'où il a été. D'ailleurs, il semble que la proportion hein, dans les évangiles entre la passion et le reste, ben, c'est disproportionné, au sens que les quelques heures, 36 heures ou 48 heures de la passion, ben, ça prend un quart ou un cinquième des évangiles. Donc, on voit bien que les disciples ont compris que c'était un point très important. Et ensuite, il y a la résurrection, que j'écris comme ceci, la résurrection. Et Saint Ignace, eh bien, prend tout son temps pour méditer la résurrection. Ben non, la résurrection, personne n'était là. Bon, Mais les apparitions du ressuscité, à une série de personnes, comme c'est écrit dans les évangiles, mais il commence par l'apparition à Notre-Dame, qui n'est pas écrite dans les évangiles, mais on suppose que vous avez de l'intelligence, n'est-ce pas ? Et que vous comprenez tout de suite que la première à qui Jésus doit apparaître, ben, c'est sa mère. Saint Ignace le dit de manière très brève, mais il a une manière de le dire qui nous invite vraiment à méditer les choses comme cela. Voilà, ça c'est un petit peu les quatre semaines. Alors pour Fessard, il découvre la sinusoïde dialectique, si vous voulez, de ce mouvement. Le péché, la vie du Christ, la passion, la résurrection. Moment négatif, moment positif, moment négatif, moment positif. Et la liberté, comme d'ailleurs l'intention, le libre arbitre, tout ça, eh bien, voilà, c'est une sinusoïde, ça passe par le chaud et le froid, ça passe par le positif, le négatif. Mais au fond, c'est un seul grand acte. Voilà, ça c'est notre vie. C'est la vie du Christ, c'est notre vie, c'est la vie de l'univers. Bon, ça c'est l'alpha et l'oméga. Hein. Vous voyez là que il systématise tout de suite assez bien. Hein. Et donc, comme le montre très bien le dessin, hein, chaque point du cercle est à égale distance du centre. Hein. Bien, donc là est quelque chose de décisif. Là se passe quelque chose de décisif. C'est quoi ce quelque chose de décisif? C'est ce qu'il appelle l'élection. L'élection, c'est la décision. Alors, et pourquoi utiliser le mot élection? Mais parce qu'il est ambigu, si on veut. C'est à la fois moi qui choisis et Dieu qui me choisit. Le peuple élu, c'est Dieu qui a choisi le peuple élu. Pas lui-même qui s'est choisi. Dans l'élection, eh bien, Dieu me choisit et moi je le choisis. Alors pour lui, dans la vie du Christ, où se trouve cette élection? Selon lui, dans l'Eucharistie. Voilà, le point central ici, c'est l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est le moment où Jésus dit, eh bien, je décide d'aller à la Passion. J'accepte d'entrer dans la Passion. Et il prend la décision, il la signifie à ses disciples. Peut-être qu'il avait déjà cette intention avant. Vous avez pris une feuille de route? Peut-être qu'il avait déjà cette intention auparavant, mais là, il la signifie et il la scelle. Hein, il la marque en donnant son corps et son sang et en disant, voilà, eh bien, je donne mon corps, je donne mon sang. Bon, maintenant, c'est du pain et du vin, d'accord, mais c'est vraiment mon corps et mon sang que je vais donner et que je donne d'ailleurs déjà maintenant. Hein? Donc, d'une certaine manière, la croix est déjà dans l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que sa décision est définitive, irréversible, il n'a pas une volonté hésitante. Hein? Ce qu'il dit, il le fait. Bien. Donc voilà, les quatre semaines, l'aspect négatif, positif, donc un mouvement dialectique, l'acte de l'élection qui est non pas la croix, mais l'Eucharistie. Alors bien sûr, la croix va authentifier l'Eucharistie, si on veut. Mais en tout cas, chez le Christ, hein, l'Eucharistie, c'est déjà le don total. C'est déjà le don total. Et donc, il y a une coupure définitive entre, ça aussi c'est écrit ça, entre l'avant, avec un grand A, et l'après, avec un grand A. L'avant et l'après. Quand on a décidé, eh bien, on est embarqué. Il n'y a plus de retour, on ne déviera plus, on va où on a décidé d'aller. Les exercices spirituels, selon Saint Ignace, doivent inviter la personne à faire un choix définitif et irréversible. irréversible. Hein? Alors, bon, ben, ce n'est pas évidemment tous les jours qu'on fait des choix irréversibles, hein, c'est sûr. Mais quand on propose cette retraite aux novices, hein, la première année de leur noviciat, de fait, bon, ils ont déjà décidé d'entrer, c'est très bien, ils sont déjà là, c'est très bien, mais vont-ils continuer? Eh bien, c'est devant cette option qu'on les met. Hein. Alors bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, chacun fait ce qu'il peut, mais en principe, voilà, hein, cette décision-là est irréversible. Ça coupe notre vie en un avant et un après. Non pas au sens que ça va se séparer, mais au sens où la vie après est différente de la vie avant. Voilà. Alors, imaginez une ordination sacerdotale, un mariage, etc. Normalement, ça coupe votre vie en deux. Avant, vous n'êtes pas prêtre ou marié, et après, vous l'êtes. Et c'est définitif. Voilà. D'autres décisions peuvent être de ce style-là, évidemment. Mais l'idée qu'il y a un avant et un après, avec un grand A, signifie vraiment l'importance de ce choix. Alors vous voyez donc un peu les quatre temps de l'acte libre, l'intention, bon j'ai péché, etc., je suis parti un peu dans tous les sens et tout ça, mais est-ce que maintenant je vais me décider à suivre le Christ? Ben oui, je le choisis, ça va, je le choisis, d'accord, j'essaie de le choisir, mais est-ce que ça va m'engager vraiment à quelque chose de sérieux? Troisième temps. Et enfin, ben si on suit ce parcours, normalement, nous est promis, hein, eh bien, la résurrection, qui est à la fois une réussite et un échec, parce que pour ressusciter, il faut mourir. Bon, donc, c'est un échec, mais c'est un échec qui se transforme en réussite. Il y a, voilà, ce moment dialectique. Alors, c'est très important, en tout cas, je l'ai remarqué en donnant ceci à d'autres. Une fois, j'avais dit que le mystère chrétien ne peut pas se passer d'aucun de ces quatre moments. Le mystère chrétien, ce sont ces quatre moments ensemble. On ne peut pas dire, tiens, moi j'aime bien la vie du Christ, mais cette histoire de péché, ça m'embête un peu, donc je laisse tomber la première semaine. Bon, oui. Ou bien je laisse tomber la passion. Moi, je crois au Christ, hein, c'est un homme formidable. Ben, vous êtes un chrétien de la deuxième semaine. Et pas de la première ni de la troisième. Vous voulez éviter le moment négatif. Hein. Ou bien, non, moi je crois à la résurrection, hein, mais le reste, voilà. Vraiment, le mystère chrétien, je crois, et c'est très bien montré philosophiquement aussi, anthropologiquement par Fessard, c'est l'enchaînement, hein, la concaténation de ces quatre moments avec ce centre très important, qui est l'Eucharistie, mais ça veut dire l'offrande de soi, quoi. Hein? L'offrande de soi. Les vœux. Hein? Voilà, se décider de manière définitive. Alors, de manière un peu plus platonicienne, mais enfin, n'exagérons pas, la spiritualité avait autrefois distingué trois voies. Trois voies. Je ne sais pas si vous connaissez ces trois voies. La voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. Voilà, les mystiques, etc., disaient... il y a au fond trois manières, trois pas plutôt, pour rencontrer Dieu. Ben, il faut d'abord se purifier. Hein. Et puis une fois purifié un petit peu, on voit un peu plus clair, illuminative. Et puis quand on voit clairement, eh bien, de plus en plus par le cœur, etc., on est uni à Dieu. Et ça la voie unitive. Alors, Fessard, qui est un petit malin, évidemment, hein, il réfléchit comment faire 3 et 4, que 3 égale 4 et que 4 égale 3. Alors, évidemment, comme il aime bien les schémas, il va trouver. Hein. Alors, regardez, et je trouve que c'est très intéressant, la voie purgative, ben, la voilà. Ce sont les deux premières semaines. Et alors, il y aura un petit chevauchement, ben, la voie illuminative, c'est la deuxième et la troisième. Et la voie unitive, c'est la troisième et la quatrième. Voilà comment faire 3 avec 4 et 4 avec 3. Hein. Mais je trouve que c'est très malin aussi. Hein. Parce qu'en effet, la voie purgative, ben évidemment, c'est méditer son péché, mais c'est aussi voir comment le Christ nous en sauve. Ça nous illumine déjà, mais ça nous invite à la conversion, etc. La voie illuminative, c'est pas seulement prouver que le Christ est un homme formidable, mais c'est aussi comprendre sa passion. Et la voie unitive, c'est pas simplement la joie, mais c'est aussi la peine. Et on peut être uni par la peine autant que par la joie ou inversement. Hein. Souvenez-vous de Scheller. Hein. Et donc voilà, il y a aussi un chevauchement dans cette dialectique. Il y a parfois un chevauchement, un tuilage, mais qui n'empêche pas quand même qu'il y ait des accents plus marqués d'une chose ou de l'autre. Voilà, alors relecture maintenant des quatre temps. De nouveau, je ne vais faire que relire ces quatre temps plusieurs fois. La scolastique habituellement distinguait les actions transitives et les actions immanentes. Alors je trouve que c'est une distinction assez intéressante. Les actions transitives, l'homme agit. Les choses bougent, elles sont en mouvement. Mais il y a deux types de mouvements, deux types d'actions. C'est les actions transitives, ça veut dire au fond matériel. L'exemple, c'est le transport. Un peu plus subtil, c'est l'échauffement. Mais l'action immanente, c'est quoi? L'action immanente, c'est ce qui se passe dans votre esprit. Quand vous, le meilleur exemple, c'est la connaissance. Quand vous étudiez un syllabus, quand vous apprenez, etc., est-ce qu'il y a une action? Oui, il y a une action. Et qu'est-ce qu'on transporte? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on échauffe? Oui, parfois, on transpire un peu, mais il y a une action immanente. De ignorant, on devient savant. Dans le meilleur des cas, mais cette action est complètement à l'intérieur de vous, et cette action immanente est très importante. Alors ça, c'est chez Aristote, repris par saint Thomas. Cette action immanente est importante. Alors elle peut se marquer dans la connaissance, mais aussi dans la vertu. Dans la vertu, on travaille sur soi-même pour devenir meilleur, plus vertueux, etc. C'est une action immanente. On travaille pour connaître, on travaille pour être plus vertueux. Eh bien, ce sont des actions invisibles de l'extérieur. Mais parfois, elles se manifestent, bien sûr. On voit la différence à la longue entre un homme qui est gentil et un homme qui est méchant, d'accord? Mais quand on le voit qui n'agit pas, on ne le sait pas. C'est pas visible. L'homme vertueux, l'homme vicieux, l'homme intelligent, l'homme... ignorant, de l'extérieur, ça ne se voit pas beaucoup. C'est un travail immanent, des actions immanentes. Alors je dis ça parce que le travail de la liberté est un travail profondément sur nous-mêmes. Être libre, devenir libre, ce sont des actions qui peuvent coûter beaucoup et en même temps qui sont impalpables. Devenir libre, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, tiens, celui-là il est libre, celui-là il n'est pas libre, comment le savez-vous? Difficile à savoir, c'est un sentiment intérieur, mais ça se manifeste aussi par certaines actions extérieures, mais on doit travailler pour être libre. Travailler sur soi-même, dans cette action immanente. Alors comment? Eh bien, par cette dialectique qui met en avant, qui met un avant et un après, en route, si on veut. Alors, je commente un petit peu l'après, et puis je commente l'avant. L'après est très important. Très facilement, on se dit, la liberté, elle est ici, Je suis pécheur, et je me convertis, ou bien j'adhère au Christ, ou bien j'échoue à l'un, Mais la liberté, elle doit quand même passer ici aussi, à l'après. À la concrétisation. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, d'être séduit par la vie du Christ, il faut entrer dans sa logique. Est-ce qu'on est moins libre lorsqu'on est ici que lorsqu'on est là et qu'on va faire son élection, qu'on va choisir? On est là, on se dit, maintenant je vais prendre une grande décision. Je vais me convertir, je vais choisir d'étudier telle faculté, etc. On est devant le choix, alors on est libre. Oui, du libre arbitre. le libre arbitre ben, choisit à gauche ou à droite. Et on a l'impression qu'ici, il y a vraiment un moment de liberté important. C'est vrai, il est plus spectaculaire, plus visible, mais en fait, la liberté se déploie peut-être davantage ici. Alors ne prenons pas la passion, mais prenons par exemple l'effort qu'on fait pour étudier. Hein. J'ai choisi d'entrer dans telle faculté. Ben, les parents étaient tout inquiets de savoir à laquelle on va choisir. Puis il a choisi ça, et ben voilà. Ah oui, mais attention, il n'est pas encore ingénieur. Hein. Maintenant, tout commence. Hein. Tout commence. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose de spectaculaire et on attend de voir ce qu'on va dire, ce qu'on va choisir, etc. Voilà, donc l'insistance sur l'après comme moment où on est vraiment libre. La liberté se nourrit de ses nécessités, de ses contraintes. Elle les travaille. Dans cette contrainte, dans cette nécessité, on est là en blocus, on transpire, ou bien on fait ses exercices de musique, etc. Ah, c'est difficile, on reprend ça 100 fois et tout. Ben, la liberté se déploie. Elle se déploie, elle se nourrit de ses nécessités, comme je disais. Elle devient intime à ses nécessités. Elle les domine de l'intérieur. Et ce travail n'épuise pas hein, la grandeur de la liberté. Au contraire, ce travail, cette tâche, renforce la liberté. Quand je continue, malgré les difficultés, hein, à chercher mon but, eh bien ma liberté se renforce. Je suis plus libre lorsque j'ai finalement mon diplôme hein, que lorsque j'ai choisi telle faculté. Je suis plus libre, oui, mais je ne choisis plus. Maintenant, je suis ingénieur, je ne peux plus être rien d'autre. Ben, oui, détermination, c'est négation, hein, comme on a dit avant. Mais détermination, c'est perfection aussi, comme on l'a vu dans une autre conception. Cependant, il ne faut pas être trop doloriste, si j'ose dire, parce que pour parler de la religion chrétienne, il y a des gens qui se focalisent ici, qui ont une religion un peu doloriste. Mais il ne faut pas être non plus trop résurrectionnel en disant la passion n'existe pas. Il faut toujours les deux. De même ici, il y a donc pour la liberté cet après qu'il ne faut pas négliger, mais il ne faut pas négliger l'avant non plus. Souligner l'après, ce n'est pas dévaluer l'avant. Alors je prends quelques exemples. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben oui, oui, si on ne les réalise pas. Mais il faut des intentions, et il faut des bonnes intentions pour se mettre en route. Alors elles ne suffisent pas, d'accord. Mais si elles ne sont pas là, ça ne marche pas non plus. Hein. Le jeune qui dit, moi j'ai envie de faire rien du tout, hein. Il n'y a rien qui me tente, ou bien j'hésite trop, je ne parviens pas à choisir, ben il ne parviendra pas à se mettre en route. Il faut des intentions, il faut un peu des rêves, des illusions, des désirs, etc. Donc il ne faut pas trop vite croire que ceci est trop important et finalement ceci ne l'est pas du tout. Le choix ben, exprime une intention et c'est déjà un acte de liberté que d'avoir des intentions, de faire un tri dans ses intentions et de choisir. Et on choisit avec sa liberté, on ne choisit pas seulement avec un calcul. Si ce n'était que des calculs, ben on demanderait à l'ordinateur qu'est-ce qu'il faut choisir, on fait un test neurologique, puis on tape, hop, et le choix sort. Mais non, la liberté, ce n'est pas ça. Choisir, c'est parfois avoir l'intention de faire quelque chose qui est presque impossible, improbable. Et ça aussi, c'est un grand geste de liberté. On dit, mais ce n'est pas raisonnable d'entreprendre les facultés quand on est aussi handicapé que vous, vous ne savez pas marcher, vous ne savez pas... Allez, ayez un peu des. Hein, soyez plus modeste. Non, j'irai à l'université en chaise, en fauteuil roulant et j'étudierai la physique, etc. Bon. Donc, ce n'est pas qu'un calcul. Il y a quelque chose ici d'un peu rêvé, d'un peu illusoire, d'un peu fantasmagorique. Mais c'est important. L'enfer est pavé de bonnes intentions s'il n'y a pas de suite. Mais s'il y a une suite. C'est ça qui met aussi le désir hein, en route. Ça, c'est la partie un peu du désir, ça. Alors, d'autres exemples, je crois, qui sont assez délicats peut-être, mais quand même. Par exemple, Un enfant, souvent, n'a pas de liberté de choix. Les parents choisissent. Une personne handicapée, ben, elle a beaucoup d'intentions, peut-être, mais est-ce qu'elle va arriver à faire ses choix et à les réaliser? Un malade mental, une personne en fin de vie, on peut désirer des choses, mais est-ce qu'on va y arriver, hein? On n'a plus beaucoup, on n'a pas du tout, on n'a jamais reçu les capacités de faire ce qu'on aimerait faire. Est-ce que pour autant ces intentions presque irréalisables de la part de quelqu'un qui est fort handicapé ou de quelqu'un qui est, disons, au bout de ses forces en fin de vie, est-ce que ces intentions sont pour autant pas des actes de liberté? Eh bien non, non, au contraire. Si c'est valorisé de la bonne manière, il y a là vraiment quelque chose de l'ordre de la liberté. De la liberté. Savoir que tel... personne handicapée aurait voulu être, sportif, ben c'est différent que l'autre qui aurait voulu être explorateur ou spéléologue ou quoi. Ce qu'ils désirent comme ça, ce qu'ils fantasment un petit peu, ça les marque dans leur personnalité. Ils vont peut-être s'intéresser, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un qui viendra leur expliquer comment ça se passe en spéléologie, etc. On peut aider aussi à se joindre à ces personnes pour les aider à réaliser un tout petit peu de ses intentions. Une personne en fin de vie qui dit j'aurais voulu revoir un tel pour me réconcilier avec lui, ou bien j'aurais voulu voir mon fils qui est au bout du monde et tout ça. C'est très important, même si finalement cette personne ne peut plus se déplacer et peut-être ne trouvera jamais le moyen de réaliser ce désir. On se souviendra que ma maman, le dernier jour, aurait voulu faire ça. Ah ben oui, elle n'a pas fait, bien sûr, mais elle aurait voulu. Ça, pas autre chose. Ça la marque, dans sa liberté. Ça nous marque dans notre manière de nous relationner à cette liberté. Accompagner le désir de quelqu'un. Encourager un enfant qui commence à jouer du violon, mais ça ne marche pas très bien, ça grince beaucoup, évidemment, on ne sait pas si on y arrivera, mais on est proche de cet enfant et on lui en parle et ou accompagner une personne âgée. Les prières d'intention, c'est ça, c'est se mobiliser sur des choses qui sont réalisables, oui, on l'espère, mais est-ce qu'elles vont se réaliser? On demande à Dieu de les réaliser, ça sert à quelque chose, j'en sais rien, Dieu va s'occuper de ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'exprime ce désir. En communauté, nous l'exprimons. La communauté exprime ce désir. Est-ce qu'elle va en trouver les moyens? En tout cas, nourrir l'intention fait déjà que le jour où il y aura peut-être un moyen, on va le prendre. Sinon, moi je ne savais pas que les autres voulaient aussi faire cette chose-là. Mais si nous avons tous dit que nous aurions voulu faire ça, quand l'occasion se présente, on est tous ensemble déjà à pouvoir peut-être nous engouffrer dans cette possibilité inespérée. Alors, ici je fais une petite parenthèse. Les stoïciens disaient qu'il fallait être réaliste et qu'il fallait s'occuper de ce qui dépendait de nous. Ta ephemin. Qu'est-ce qui se passe là? Ta F. Emin. Ce qui dépend de nous. Ta F. Emin. Donc il faut être réaliste dans la vie, en morale. Je m'occupe de ce qui dépend de moi. Ce qui dépend des autres, ce qui dépend du sort, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Ta F. Emin. Je crois que c'est très libérant dans la vie courante. Ce genre de réflexion stoïcienne, très. Mais la vertu chrétienne de l'espérance, c'est, dans la définition de Gabriel Marcel en tout cas, qui est très belle, c'est d'appliquer sa volonté à ce qui ne dépend pas de nous. Appliquer sa volonté, de manière inutile peut-être, de manière vertueuse, c'est l'espérance. Appliquer sa volonté à ce qui ne dépend pas de nous. Ça, c'est l'espérance. Je trouve que c'est une très belle définition. parce que la charité, ben, c'est probablement de s'occuper de ta famine et de réaliser quelque chose avec l'aide de Dieu. Mais l'espérance est une vertu difficile. Eh bien, Gabriel Marcel, elle l'a définie comme cela. Hein. C'est appliquer sa volonté à ce qui ne dépend pas de nous. Donc l'intention ici est importante. La négativité. Je commente un peu la négativité. Il y a quelque chose de vrai dans, en disant que la liberté est part d'un néant, hein, d'un vide, de quelque chose qui n'est pas là. C'est une définition de la liberté qu'on trouve dans l'existentialisme de Sartre, etc., bon, chez d'autres. Hein. Voilà, la liberté, c'est quelque chose de vide, alors on essaie de combler un vide, mais au point de départ, ben, il n'y a rien, et puis à la fin, on n'est pas sûr qu'il y a quelque chose non plus. Voilà, définir la liberté par cette négativité qui sert de moteur, hein, de moteur à un mouvement, parce qu'on est toujours à la recherche de ce qu'on n'a pas, et de ce qu'on n'aura jamais d'ailleurs. Et ça, ce sont les extrémistes qui disent ça. Hein. Mais ça, c'est le moteur de la liberté. Donc, moi, je défends ici, avec le Père Chapelle et d'autres, évidemment, qu'il y a aussi une perfection de la liberté qui est donnée dès le point de départ. Il y a un excès, une surabondance, etc. Enfin bon, il y a d'autres mots pour le dire. Mais ce n'est pas entièrement transi par le négatif. Mais il y a quand même quelque chose de vrai dans l'idée qu'il y a du négatif dans la liberté. Alors, Hegel, je trouve, est génial dans cette manière de parler. Dans sa métaphysique, comme vous savez, il pose toujours un terme, il pose son contraire, et puis la synthèse. Mais cette synthèse elle-même, bon, on lui oppose son contraire, puis on fait une nouvelle synthèse. Et ainsi de suite. Donc positif, négatif, synthèse. Bon, ben en métaphysique, ben on va faire la même chose. Hein. On pose positif, c'est l'être. Ben on pose son contraire, néant. Ben on va faire la synthèse. Hein. Alors qu'est-ce que c'est la synthèse de l'être et du néant?
Le devenir.
Voilà, le devenir. Hein. Le devenir. Le devenir. C'est ce qui n'est pas encore, ce qui est transi de néant. Mais en même temps, ce n'est pas que du néant, parce que si c'était que du néant, avec du néant, on ne fait rien. Donc, voilà, ça c'est le point de départ de sa métaphysique. Hein. Eh bien, la liberté, c'est la même chose, donc il ne faut pas nier le côté négatif, mais entre dire que tout est donné d'avance, hein, et de dire qu'il n'y a rien, ben non, il faut chercher le juste milieu, qui est, pas seulement un juste milieu, mais qui est le moteur, hein, qui fait advenir, perfectionner ce qui est déjà donné, mais qui ne sera jamais parfait, parce qu'il sera toujours transi de négativité quand même. Et ça, c'est très important de se le dire aussi dans sa vie personnelle. Nous sommes toujours en route. Et il n'y a jamais rien qui est parfait. À vouloir être parfait, eh bien souvent on ne fait pas grand chose. Hein. À ne pouvoir admettre sa finitude, à ne pouvoir admettre, je dirais, le peu de vertu qu'on a, eh bien on ne poursuivra pas une plus grande vertu. Hein. On se laissera aller, on dira, ben voilà, on n'est que ça, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'assumer cette finitude. Parfois, on se fait violence à soi-même parce qu'on a une idée trop perfectionniste de soi. Il faut accepter que la liberté se fabrique peineusement, hein, onéreusement, et qu'on n'est jamais déjà arrivé. Si on ne s'illusionne pas trop sur le déjà arrivé, ça nous économise peut-être, ça nous dispense, nous épargne certains découragements inutiles. Hein. Je suis découragé parce que j'ai raté la première session de ma première année. Ben oui. Oui, ben, il y a encore beaucoup de sessions à venir. Hein. Moi, je connais malheureusement des gens qui abandonnent parce que, voilà, ils ont raté la première session de la première année. Bon, ben, il y en a qui sont devenus des gens très importants et qui ont raté toutes les années. Ah, hein, parce qu'ils ont continué, hein. Ça, bon. Donc il y a quelque chose d'important à admettre, cette finitude, cette négativité. L'échec a quelque chose de... Voilà, qui nous défie aussi, hein, qui nous défie. Moi, j'en connais aussi qui ont réussi leurs humanités vraiment trop facilement, et puis à l'université, ben, ils n'ont jamais réussi à s'y mettre, hein, parce qu'il n'y avait pas le cadre pédagogique, il n'y avait pas la contrainte, etc. Et ils avaient trop l'habitude de la réussite. Hein. Et puis, quand ils sont tombés sur un os, ben, ils n'ont pas pu le ranger comme il faut. L'échec est la caractéristique de celui qui a quand même travaillé. Mon grand-père, ben, il a fait faillite 2 fois. Ben, il était entrepreneur en bâtiment. Hein. Ben, la crise de 1929, paf. Hein, puis la guerre 40, paf. Hein, il a été 4 ans en captivité en Allemagne. Ben, je ne vais pas dire qu'il était content de ça, mais il était fier d'avoir réussi à reprendre, hein, les choses. Et il nous donnait parfois un exemple, pas de manière très professorale, hein, ni moraliste, non, non, mais il nous le disait quand même. Hein. Moi, j'étais avec rien, je n'avais plus rien du tout, rien. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, la modestie du savant. Hein. Il n'y a que les ignorants qui ont une grande prétention dans leur savoir. Hein. Il n'y a que les incompétents qui ont des avis tranchants sur ce qu'il faut faire. Hein. Quand on a un peu étudié un sujet, eh bien on se rend compte que l'ignorance est immense, hein, même si on connaît beaucoup de choses. Hein, l'ignorance que nous avons est encore plus grande, bien sûr. Plus l'homme est savant, plus il reconnaît son ignorance, plus il est modeste d'habitude. Hein, et voilà, c'est aussi une forme d'échec, hein, de limite qu'on rencontre et qui nous donne une certaine modestie. Les maîtres du soupçon. Eh bien, les maîtres du soupçon, comme vous savez, c'est Marx, Nietzsche et Freud, qu'on appelait ainsi, c'est Ricoeur qui les a appelés ainsi, les maîtres du soupçon. Eh bien, eux ont une conception de la liberté, justement, qui est surtout négative. Hein, qui est surtout, voilà, la liberté, c'est quelque chose qui part de rien. Alors, il faut mobiliser le lump profétariat. Prolétariat, hein, ça veut dire le bas du panier qui est en haillon, loup. Hein, et ben c'est eux qui vont faire la révolution, hein, c'est eux qui vont refaire le monde. Hein. Il faut partir de zéro, il faut prendre les plus nuls des nuls, et c'est avec eux qu'on va réussir quelque chose. Mais d'abord en cassant tout, hein, bon, il faut détruire, et on espère qu'avec ça, on va reconstruire quelque chose. L'espérance du grand soir. Nietzsche. Ben, il se rend compte que l'espérance du grand soir, à niveau individuel, ça ne marchera jamais parce qu'on retombe toujours, hein, on retombe toujours sur l'insatisfaction. Alors en effet, la liberté s'arrache sur son néant, pose un acte, hein, par volonté de puissance, mais quand elle a atteint un objectif, éternel retour au même. Mais c'est cet acte de volonté de puissance pour lui-même, hein, qui finalement est le but. De faire quelque chose pour le faire. Pour le faire. Je résume très fort, évidemment. Freud aussi, ben, il y a toujours le manque, surtout exprimé par Lacan, hein, le manque, la béance première. Vous pourrez faire toutes les psychanalyses que vous voulez, finalement, ça se réduira à, ben, il y a une béance en moi, hein, qui ne sera jamais comblée. Voilà, la satisfaction océanique et tout ça, c'est bye-bye depuis longtemps, hein. Pourtant, il ne faut pas céder sur son désir, comme il dit. Il ne faut pas céder sur son désir, ça veut dire qu'il ne faut pas cesser de désirer. Mais il faut savoir que, ben, on sera à peu près toujours insatisfait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'apaise et que peut-être, eh bien, on vit de manière un peu plus calme, je ne sais pas. Donc voilà, ce sont toutes sortes de petites indications, hein, qui montre les conceptions de la liberté qui s'affrontent, où il y a beaucoup de négativité, ou bien celle où il y a à la fois négativité et positivité, selon ce schéma-ci, avec la formule, je prends 4 maintenant, enfin pardon, le point E, la liberté au principe et au terme de soi. « vous souvenez que la fois passée, on avait pris comme définition la liberté comme autodétermination de soi par soi, avec ce dédoublement du soi. Il y a un soi au départ et un soi à l'arrivée. Il y a une ambiguïté dans le terme. Autodétermination de soi par soi. Eh bien, donc maintenant, l'idée que la liberté est vraiment au principe et au terme de soi. Alors, je reprends les quatre temps. Vous pouvez voir en filigrane le schéma précédent, bien sûr. Mais je reprends les quatre temps pour eux-mêmes et j'intitule cela « Spontanéité, libre arbitre, dominus sui et redditio completa ad se ipsum ». Découvrir la liberté comme étant quelque chose de donné, même à celui qui n'a encore rien fait, eh bien il est libre. Évidemment, il est libre en puissance et c'est un acte qui va le devenir de plus en plus peut-être, mais il sera toujours, malgré tout, un mélange de puissance et d'acte. La liberté est vraiment au principe elle-même. On devient libre, oui, mais on devient libre parce qu'on l'est. Alors on ne l'est pas entièrement, non, on ne le sera d'ailleurs jamais entièrement, c'est notre finitude, qu'il faut accepter, mais quand même on le devient de plus en plus. Alors bien sûr, il y a des déterminismes, mais il y a les surdéterminations, des déterminismes, comme je l'avais dit la fois passée en reprenant Ricoeur. Et on se rend compte que la liberté, au fond, est toujours là, dans tous les moments. Dans les quatre moments, la liberté est là. Dans les quatre moments, la liberté comme telle est là, mais sous une autre figure. Et c'est dans l'exercice de mémoire qu'on se rend compte de ça. Alors la liberté au fond c'est, ici je reprends dans les exercices spirituels de Saint Ignace, je crois que je vous l'ai déjà indiqué au numéro 324, il y a une prière de Saint Ignace dans les exercices spirituels qui dit « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, tu me l'as donné, à toi je le rends. » Dispose-en selon ton entière volonté, donne-moi seulement ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Et donc, il dit, prends Seigneur et reçois. Alors, par parenthèse, les doublés chez Saint Ignace sont très intéressants. Rarement, il utilise un verbe ou un mot tout seul. Il juxtapose souvent quelque chose qui vient le compléter, le nuancer. Prends et reçois. Dire au Seigneur, prends ma liberté, serait peut-être trop violent, mais dire « reçois » en même temps, parce que je la donne au fond. « Prends-la parce que je la donne, et je la donne parce que tu me l'as donnée, et tu la prends parce qu'elle est à toi, etc. » Enfin bon, peu importe. « Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté. » Et alors, avec Fessard, j'entends « toute ma liberté, deux points, ma mémoire, mon intelligence et ma volonté. » Mémoire, intelligence et volonté égale liberté. C'est une autre manière de reprendre ces quatre moments. La mémoire, la première semaine, on regarde ce qu'on a fait dans sa vie. Intelligence, on comprend que la solution du Christ est intéressante. Volonté, il faut y adhérer. Et quand on a fait tout ça, eh bien, on est dans la liberté de la résurrection. Donc ce sont les mêmes points qu'on avait auparavant avec l'intention. L'intention, c'est chercher dans ce qui nous est donné, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, chercher quelque chose qu'on va choisir, qu'on va discerner par l'intelligence, le choix, la maîtrise par la volonté, et finalement, eh bien, le bon usage et la fruition. Imaginez quelqu'un qui, c'est une image qu'utilise le Père Chapelle et qui frappe souvent certaines personnes, je l'ai remarqué. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne, ou à en tout cas un relais assez élevé sur une montagne que vous avez essayé de gravir, et vous voyez tout le chemin parcouru. Vous voyez les lacets en dessous, vous voyez d'autres marcheurs hein, qui s'amènent, etc. Et vous pouvez, par la mémoire, eh bien, dire, ah oui, là il y avait ça, là il y avait ça, là on a mangé, là j'ai eu mon coup de pompe, là c'est l'autre qui a eu hein, quelque chose dans son soulier, etc. Bon, vous retracez tout ça par la mémoire. Vous avez une vue globale, et cette vue globale est très intéressante pour savoir ce que vous avez fait. Parce que parfois, on va là, et puis on vous a dit, tu as vu la maison là à gauche? Ils n'ont pas vu, ah bon. Trop tard, il faut redescendre. Ah non, non, je ne redescends pas. Non. Voilà, donc c'est très intéressant de refaire le parcours. Eh bien, prenons ça comme image pour sa propre vie. On fait l'exercice de mémoire. Alors, par parenthèse, chez Saint Ignace, il faut souvent faire des exercices de mémoire dans la prière. Se souvenir de son passé propre, hein, c'est de la prière. On se dit, tiens, bon, ben, quand je suis entré au noviciat, finalement, quelles étaient mes intentions, hein. Je regarde mes intentions, ben, c'est plus aucune des intentions pour lesquelles moi je suis dans la compagnie. Ben, donc, je dois sortir, quoi. Parce que toutes mes intentions, poubelles, hein, y en a d'autres. Ah ben non, c'était un départ, c'était... des intentions qui se sont transformées, qui se sont nourries, qui se sont un peu désillusionnées, évidemment, etc. Bon, ben, mais voilà, il fallait ça. Il fallait ça. Mais est-ce que j'étais libre, finalement? Puisque je suis entré pour des motifs qui ne me convainquent plus. Ben, à ce moment-là, j'avais ces motifs-là. Hein. Ça me convainquait suffisamment, à ce moment-là. Et aujourd'hui, ben, aujourd'hui, il y a peut-être une érosion de certaines... enthousiasme, etc. Mais enfin, il y a d'autres choses qui sont là. Hein. Voilà, donc, se souvenir, c'est aussi un acte de liberté. Parce que sinon, on aurait trop vite conclu, ah ben oui, ben donc, mes motivations ne tiennent pas, donc je sors. Mais ben non, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'elles sont devenues, hein? Qu'est-ce que j'en ai fait petit à petit? Relire son histoire. Réassumer un peu hein, ses intentions, ses motivations, ses efforts. Ben là, cet effort-là vraiment était complètement inutile. Hein, ça a été du temps perdu. D'ailleurs, je suis arrivé à rien. C'était un peu un cul-de-sac dans ma vie. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Bon, ben, j'assume. Voilà. Voilà, ça fait partie de ma finitude, ça fait partie de ma vie. Approuver son histoire ou la renier, c'est un acte de liberté. C'est un acte de liberté très important. Si à la fin de sa vie, on dit, ben, tout qu'on fait, moi j'ai perdu tout mon temps ici, ben, c'est une autre position que de dire, ben, j'ai quand même fait des choses pas mal, quoi. Hein? Même si y a un peu de mélange, même s'il y a un peu de tout ce qu'on veut, réassumer ce qu'on a fait. Et pas seulement le dernier jour de sa vie, mais peut-être à tout moment. Alors, oui, mais on n'est pas objectif. Ah ben, bien sûr qu'on n'est pas objectif. Hein? Bien sûr. Quand on a 20 ans de plus ou 30 ans de plus, on n'est pas objectif sur ce qu'on était quand on était jeune, mais on est quand même le même. Et le même, et voilà, on s'est formé aussi à travers tout cela. Donc, renier son histoire, ou l'approuver, ou se dire, tiens, telle personne, bon ben, quand même, ça ne s'est pas très bien passé. Si j'allais lui demander pardon, hein, ou au contraire se dire, ah ben celui-là je lui en veux toujours, à la prochaine occasion je vais me venger, hein. Ben, c'est tout différent. L'acte de la liberté, hein, je suis ici, mais je fais mémoire et je reparcours et je réassume librement certaines choses. C'est très important. Si vous racontez une maladie, ben pendant la maladie, ben, c'était pas amusant, hein, ben, bien sûr, mais après coup, finalement, après coup, hein, je me dis, tiens, ça m'a permis de, j'ai compris ceci, voilà, je suis devenu plus cela. Hein. C'est très important. Ce sont des actes de liberté qui nous sont révélés par la mémoire. Comprendre ses motivations, les analyser, se dire, ben, tout on fait, là, il y avait une illusion, mais quand même, il y avait en germe quelque chose, hein, il y avait, et puis c'est un tel qui m'avait mis ça dans la tête, ben, c'est un tel, je suis plus très d'accord avec lui, mais enfin, voilà, hein, à ce moment-là, etc. Alors la volonté, j'ai indiqué ici dominus sui. C'est une définition thomiste. Être libre, c'est être maître de soi. Dominus sui. Alors vous savez que saint Thomas d'Aquin s'inspire évidemment d'Aristote, hein, toujours et partout, mais il le transcende un petit peu. Et Aristote, qu'est-ce qu'il avait dit ? Être libre, c'est ne pas être esclave. Ben oui, c'était la définition politique de la liberté. Je vous ai dit que ce n'était pas une notion vraiment philosophique, hein, c'était une notion politique. Être libre, c'est ne pas être esclave. Saint Thomas d'Aquin traduit donc, être libre, ben, c'est être maître de soi. C'est être maître de soi. On n'est pas esclave, mais on pourrait très bien être esclave de soi, même si politiquement on est libre. Donc c'est être maître de soi, dominus sui. Ce n'est pas la seule manière de définir la liberté, mais finalement, dans le but d'une redditio completa ad se ipsum, un retour complet à soi-même. Ça veut dire une espèce de coïncidence avec soi, hein? Une espèce de jouissance, de sentir qu'on est entièrement soi-même avec tout ce qu'on a fait et qu'on approuve ce qui a été fait et qu'on est content de ce qui a été fait. On retourne complètement sur soi-même et on en est content, on en est satisfait. Ça aussi, c'est un acte de liberté. Se dire cela, partiellement peut-être, hein, même très partiellement, mais le dire, c'est un acte de liberté par rapport à sa vie et par rapport au don de sa vie qu'on a reçu et qu'on a donné aux autres. Voilà, alors on pourrait résumer. Je l'ai voulu, je l'ai choisi, j'y ai travaillé et j'ai réussi. Et se rendre compte de cela, pouvoir le dire sur tel ou tel événement de sa vie, eh bien c'est assez magnifique. Deux définitions de la liberté, soit par l'esprit, soit par le désir. Eh bien, si on met ici de nouveau intention, choix, travail et jouissance, pression, il y a une définition de la liberté qui est un peu celle de Sartre ou d'autres qui disent la liberté, c'est d'avoir des projets et de les choisir. Et une fois qu'on est là, on ne sait plus trop quoi faire. Hein, on n'a pas envie de s'engager dans ce genre de choses parce que ça va nous aliéner. Hein, et on dit, mais il faut toujours être en projet, il faut toujours choisir. Et on a cette liberté qui tourne un peu dans ce cercle-ci. De nouveau, ça c'est schématiser un peu les choses, hein. Mais l'objectif est toujours un peu illusoire, quoi, hein. On ne croit pas qu'on va arriver à quelque chose. On sera toujours insatisfait. C'est peut-être vrai, mais quand même, hein, on n'est pas que insatisfait. Donc ça, c'est une définition de la liberté par le désir, dirais-je. C'est le désir, finalement, qui est au cœur de la liberté. Désirer. Il faut toujours désirer. Ce qui est vrai aussi. Mais une définition plus globale de la liberté, c'est une définition par l'esprit. Voilà. Être spirituel. La liberté est vraiment... disons l'exercice de l'esprit. L'esprit étant lui-même à la fois mémoire, intelligence et volonté. Et donc là, ça assume tous les moments de la liberté. C'est une liberté vraiment spirituelle à ce moment-là. Ce n'est pas seulement le désir, hein. Je suis libre parce que je suis capable de désirer et de choisir ce que j'ai envie de faire. Hein. Disons que un peu définition un peu limitée, mais très fréquente finalement, hein, de la liberté. Voilà, chers amis, il est 7h30, je m'arrête. Je vais couper l'enregistrement, mais ceux qui veulent rester quelques minutes, on a le temps jusqu'à 20h, si vous voulez. Et je dis au revoir à ceux qui nous ont éventuellement écoutés.